Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je voudrais remercier Perrine Tolène et l'ensemble de ses collègues et interlocuteurs de la politique de la ville et peut-être d'autres services de l'agglomération. Pour cette matinée d'échange autour des usages enfantins des espaces publics, je pense qu'on va commencer peut-être de manière très large et puis descendre petit à petit sur des questions plus précises et des territoires plus ciblés. Pour être tout à fait honnête avec vous, je dois vous dire que je trouve que c'est rassurant en tant que citoyen et puis aussi encourageant en tant que chercheur de voir qu'il y a des acteurs de terrain qui peuvent prendre le temps de discuter ensemble, de réfléchir, de lire, de solliciter des intervenants extérieurs pour justement prendre un peu de recul. J'ai peur que ça ne soit pas toujours le cas et que ce temps ne soit pas toujours pris, donc je suis très heureux que ça puisse exister et de participer à cette rencontre ce matin. Donc j'interviens en tant que sociologue, alors je ne vais pas me présenter trop longtemps, mais l'idée c'est que je suis un sociologue qui depuis une petite dizaine d'années s'intéresse à la question des usages enfantins des espaces publics et surtout de la régulation des usages enfantins des espaces publics par les parents. C'est vraiment la question qui m'intéresse. Mon travail c'est, en gros pour le dire simplement, comment les parents accompagnent, surveillent, contrôlent les mobilités, les usages des espaces publics des enfants. Alors je préfère vous préciser d'emblée que ma connaissance de l'agglomération grenobloise est assez superficielle. Je l'ai déjà vu quelques fois, mais je ne connais pas très bien, donc j'irai peut-être parfois des bêtises. Et par ailleurs, mes recherches n'ont pas porté de manière spécifique sur les quartiers prioritaires ou sur les quartiers d'habitat social. Je vous présenterai mes terrains de recherche tout à l'heure, mais ce n'est pas vraiment le même type de contexte sur lesquels j'ai travaillé. Cela étant dit, l'objectif de mon intervention n'est pas de vous expliquer exactement ce qui se passe dans les quartiers dans lesquels vous pouvez intervenir ou qui vous intéresse, mais plutôt de vous proposer un certain nombre de repères, un certain nombre de clés d'analyse qui, j'espère, pourront vous être utiles pour peut-être agir différemment ou comprendre avec un autre regard les différents territoires sur lesquels vous intervenez. Alors, j'ai essayé, c'est toujours dur pour les universitaires de faire court, hein, mais j'ai quand même essayé de faire court, donc en trois points. D'abord, je vais prendre un petit moment pour vous présenter le travail que j'ai réalisé dans le cadre de ma thèse, pour que vous compreniez d'où je vous parle, en fait, sur quel matériau je m'appuie, sur quelle démarche je m'appuie pour vous parler ce matin. Après, je vous proposerai un rapide bilan des travaux qui ont été conduits par d'autres chercheurs que moi sur la question des usages enfantins des espaces publics et aussi sur la question de la jeunesse dans les quartiers prioritaires. Et puis après, ça sera un peu le cœur de mon intervention, j'ai essayé de vous présenter quelques clés d'analyse pour vous aider à mieux comprendre peut-être, ou en tout cas avec un autre regard, le rapport que les enfants et surtout leurs parents entretiennent aux espaces publics. Alors, donc je vais commencer avec une présentation rapide de mon travail de thèse, en partant peut-être d'une consigne assez habituelle, qui peut prendre différentes déclinaisons, qui est une consigne que vous avez peut-être déjà donnée, ou en tout cas peut-être reçue en tant qu'enfant: n'accepte pas de bonbons de la part de quelqu'un que tu ne connais pas. Rares sont ceux et celles qui n'ont jamais reçu, donné, entendu cette consigne ou une de ces déclinaisons. Ne pas parler aux inconnus, ne pas suivre les inconnus, ne rien accepter d'eux, voilà autant de recommandations qui occupent une place centrale dans l'esprit des parents au moment où leurs enfants commencent à se déplacer dans les espaces publics sans eux. Et ça, d'autant plus en milieu urbain que la ville, d'un point de vue sociologique, c'est le royaume des inconnus. En fait, c'est un espace dans lequel la plupart des gens qu'on va croiser sont des inconnus biographiques, des personnes qu'on ne connaît pas. Alors, de prime abord, l'étude de la façon dont les parents encadrent, surveillent, contrôlent la présence des enfants dans les espaces publics peut paraître un peu triviale, tant ces pratiques font partie de l'expérience quotidienne des parents et aussi de l'expérience passée de tous ceux qui, même s'ils n'ont pas d'enfants, ont été des enfants. En fait, on a tous, à un moment ou à un autre, été confrontés à cette question en tant que parents ou en tant qu'enfants ou alors en tant que proches d'autres enfants. Dans mon travail de thèse, j'ai choisi de prendre au sérieux ce volet urbain des pratiques éducatives en m'intéressant à ce que j'ai appelé l'encadrement parental des pratiques urbaines des enfants, c'est-à-dire l'ensemble des pratiques parentales qui visent à encadrer les déplacements et les activités des enfants dans les espaces publics urbains. Donc je pense que parmi vous, il y a un certain nombre de gens qui, au quotidien, se livrent à cette activité d'encadrement parental. Alors, j'ai décliné deux grands ensembles d'interrogations dans ce travail. D'abord, que disent et que font les parents au moment où leurs enfants deviennent progressivement autonomes dans la ville, en m'intéressant aux différentes étapes de ce processus dont je vous parlerai un petit peu tout à l'heure. Et puis, en tant que sociologue, deuxième grande interrogation, tous les parents font-ils et disent-ils la même chose ? J'essaie d'avoir un regard sociologique sur ce travail d'encadrement pour montrer comment il peut être lié à des ressources différenciées dont disposent les familles. Alors, l'enquête de terrain que j'ai réalisée a principalement consisté à réaliser des entretiens avec des parents. J'en ai rencontré au total 88. Donc c'était des parents qui avaient au moins un enfant âgé de 8 à 14 ans. Pourquoi cette tranche d'âge qui était peut-être un peu longue, si je devais refaire mon enquête, je la réduirais sans doute, c'est parce que je m'intéressais beaucoup à la question du passage au collège. Il y a beaucoup de travaux qui ont montré que ce soit en ce qui concerne les pratiques de mobilité, mais plus largement les pratiques culturelles, l'habillement, les pratiques alimentaires, enfin, le passage au collège, c'est un moment d'autonomisation important pour les enfants qui prennent de la distance vis-à-vis des consignes parentales, vis-à-vis des pratiques, des goûts parentaux. Donc moi, je m'intéressais à la façon dont le passage au collège pouvait avoir un effet sur les mobilités, les usages de la vie. Donc, j'ai réalisé 78 entretiens entre 2009 et 2012 à Milan et à Paris. Donc, je vais vous présenter mes deux terrains d'enquête juste après. L'idée, c'était de réaliser une approche à la fois localisée, c'est-à-dire que j'avais défini deux territoires pour pouvoir étudier au sein d'un contexte particulier des pratiques et leurs différenciations. Et en même temps, comparer, c'est-à-dire que c'est une approche localisée, j'ai deux territoires définis, mais que je compare entre eux, un espace à Paris et un espace à Milan, pour interroger la façon dont le contexte de résidence va contribuer à définir les pratiques éducatives et les usages de la ville par les parents et les enfants. Et ces deux quartiers avaient en commun d'être des quartiers assez hétérogènes du point de vue de la composition de leur population, c'est-à-dire avec une assez grande diversité à la fois sociale, culturelle et religieuse. Donc c'est vraiment c'était un choix de ma part d'étudier des quartiers. Alors on peut discuter pendant des heures du concept de mixité sociale, en tout cas c'est des espaces avec des personnes assez différentes qui vivent sur le même territoire. Donc je ne vais pas m'attarder, mais juste pour que vous ayez une petite idée, donc j'ai à Paris étudié une partie du 19e arrondissement qui est situé dans le nord-est de Paris. En gros, le 19e arrondissement, c'est un mélange entre une partie assez bourgeoise autour des buts de Chaumont, donc pour vous donner une idée, des appartements qui peuvent valoir 10 000 euros le mètre carré, 12 000 euros le mètre carré, donc on est quand même sur des populations très aisées. C'est aussi des ensembles de logements sociaux, pour certains assez avec des familles en situation d'assez grande difficulté, notamment vers le périphérique. Et aussi un processus de gentrification, donc je pense que c'est des choses qui doivent aussi exister sur Grenoble, donc avec une poussée en fait notamment de familles qui viennent s'installer dans cet arrondissement parce qu'il est relativement moins cher encore que d'autres arrondissements plus centraux. Alors depuis mon enquête, ça a pas mal changé, hein, ça s'est vraiment embourgeoisé, mais disons que c'est un territoire qui m'intéressait parce qu'il était assez hétérogène. Et à Milan, donc c'est un peu un hasard le fait que les deux quartiers, si vous regardez, se trouvent tous les deux à peu près au même endroit de la ville. C'était pas fait exprès, mais il y a quand même une raison, c'est qu'en fait Milan et Paris, c'est deux villes qui ont à peu près la même histoire urbaine, qui se sont développées par cercles concentriques. Donc c'est des territoires qui ont à peu près la même histoire. Au début c'est la campagne, puis petit à petit ça devient des espaces de villégiature pour l'aristocratie, la bourgeoisie, et puis après ça s'industrialise et ça s'urbanise, et après ça se désindustrialise, puis ça se gentrifie. Enfin voilà, je vous fais ça un peu vite, mais c'est un peu la même histoire urbaine. Et alors c'est impossible de trouver deux quartiers qui soient similaires évidemment, mais ce quartier de Milan, je l'ai retenu parce qu'en fait c'était à l'époque, ça doit toujours être d'ailleurs, le quartier d'Italie avec le plus fort taux de personnes non italiennes. En fait, vous savez peut-être que l'Italie est un pays qui a une immigration très tardive comparée à la France, mais par contre assez rapide et importante. Et à l'époque de l'enquête, là, il y avait à peu près un quart de la population du quartier que j'ai étudié qui était étrangère. Alors c'est une immigration assez différente de l'immigration qui est plus connue que la France, mais voilà, ça m'intéressait d'avoir aussi une diversité linguistique, culturelle, religieuse dans le quartier que j'étudiais à Milan. Et voilà, de la même manière, je rentre pas trop dans les détails, mais si vous regardez, donc là il y a les buts de Chaumont au milieu, à Milan il y a deux grands parcs aussi au milieu du terrain, ils avaient des caractéristiques en fait morphologiques qui les rapprochaient, notamment un canal qui passait, enfin voilà, c'est comme ça que j'ai délimité ces deux terrains. Et alors pourquoi la comparaison Paris-Milan? Il y avait différentes hypothèses qui étaient sous-jacentes, mais notamment deux choses qui m'intéressaient principalement. La première, c'est que si on compare la société française et la société italienne, mais encore plus Paris et Milan, il y a un contraste qui est assez fort dans la présence de la famille. Enfin, en fait, il y a des proximités résidentielles de membres de la famille beaucoup plus importantes à Milan qu'à Paris. Donc l'hypothèse, c'était que ça pouvait avoir des effets sur la façon dont les enfants utilisent les espaces publics, se déplacent, avec une organisation familiale localisée, de la mobilité, de la vie quotidienne plus importante. Et la deuxième hypothèse, c'était que, je ne sais pas comment ça se passe à Grenoble, mais à Paris, il y a une très très forte compétition scolaire. En fait, la question des choix scolaires est très, très crispante, il y a beaucoup de tensions autour notamment du choix du collège. Et c'est des questions qui sont beaucoup moins fortes en Italie qu'en France. En fait, c'est pas la même organisation du système scolaire. Donc il y avait cette hypothèse aussi derrière que peut-être les usages de la ville étaient différemment structurés par la question scolaire à Milan et à Paris. Voilà. Donc si vous voulez, on en reparlera tout à l'heure au moment des questions, mais c'était juste pour vous donner quelques éléments de contexte sur mon travail. Alors, dans le cadre de ce travail, j'ai fait, évidemment, comme tous les chercheurs, un travail important de lecture, de revue de littérature. Donc moi, je pense que ça peut être pas mal de vous donner, donc je vais peut-être au risque de simplifier un petit peu, hein, mais de vous proposer quelques grandes lignes de la synthèse que moi j'ai faite de ces lectures sur les enfants, la ville, les espaces publics. D'abord, je vais vous présenter trois grands résultats. Moi, ça me semble vraiment être les choses les plus importantes que je retire de toutes les lectures que j'ai pu faire, de travaux réalisés en France, mais aussi dans d'autres pays. Premier résultat, depuis, on va dire, il y avait beaucoup de travaux d'historiens sur la question de la présence des enfants dans les espaces publics, qui était beaucoup plus importante il y a quelques siècles qu'aujourd'hui. Mais les travaux de sociologues, qui se portent sur une période plus récente, la plupart du temps sur les 2, 3, 4 dernières décennies au plus, confirment la tendance dans les villes occidentales au retrait des enfants des espaces publics vers les espaces privés, donc le domicile, ou des espaces bien définis comme des centres sociaux, des services privés d'accueil des enfants. Je pense que c'est important, c'est peut-être en contradiction avec la thématique de la journée, l'interrogation que vous avez sur la recrudescence d'enfants dans les espaces publics, et c'est vraiment un résultat consolidé. Donc pour vous donner une idée, dans tous les pays européens, on a mesuré, par différents types d'enquêtes, une tendance au déclin relatif de la présence des enfants dans les espaces publics, une tendance au déclin de la durée des trajets qu'ils peuvent effectuer, enfin la diminution de la durée des trajets, de la longueur des trajets qu'ils peuvent effectuer en autonomie. Alors, de manière différente selon les pays, dans le sens où il y a des niveaux d'autonomie très différents, par exemple entre les pays scandinaves et les pays du sud de l'Europe, ou même au sein d'un même pays entre différentes régions. Mais globalement, on observe un retrait, un déclin de la présence des enfants dans les espaces publics, dans les villes occidentales, sur la période récente. Dans ce contexte de retrait, de déclin relatif de la présence des enfants dans les espaces publics, on observe aussi l'apparition progressive d'une norme de parentalité qui est une injonction à ne pas se désintéresser de ce que font les enfants dans les espaces publics. C'est-à-dire laisser ses enfants seuls dans la rue devient progressivement un marqueur d'irresponsabilité parentale. Et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup moins prégnant il y a 20, 30, 40 ans qu'aujourd'hui. Voilà. Donc, moi, je pense qu'en tant que sociologue, c'est pas mal d'insister un peu sur ça en parlant avec des acteurs de terrain, d'avoir bien en tête que la norme actuelle de responsabilisation, stigmatisation de l'irresponsabilité de parents qui laisseraient leurs enfants dans les espaces publics s'inscrit dans une histoire sociale et dans la construction progressive d'une norme de parentalité qui consiste à considérer comme étant irresponsables les parents qui ne s'intéressent pas à ce que font leurs enfants dans les espaces publics, avec notamment, dans les années 80 aux États-Unis, tout un moment très marqué par la question des enlèvements. Il y avait des campagnes de publicité sur la question des enlèvements d'enfants qui a vraiment été assez massif. Et puis en Europe, dans les années 90, notamment autour de l'affaire Marc Dutroux, une visibilité de la question de la pédophilie et du risque d'enlèvement des enfants qui n'était pas du tout, enfin dans les années 60-70, c'était pas quelque chose de prégnant dans le débat public de la même manière. Donc premier grand résultat, c'est poursuite du déclin de la présence des enfants dans les espaces publics. Deuxième grand résultat, important à avoir en tête, ne pas penser les enfants de manière générique, c'est-à-dire que les pratiques urbaines des enfants, leurs activités, leurs déplacements dans les espaces publics sont différents selon les types de contextes résidentiels, par exemple entre le centre-ville et le périurbain, où probablement aussi il n'y a pas énormément de travaux sur les quartiers de grands ensembles, mais entre les grands ensembles, peut-être le centre-ville, le périurbain, il y a des différences. Et aussi au sein d'un même contexte résidentiel, selon les propriétés sociales des familles. C'est-à-dire selon leur niveau d'éducation, selon le revenu dont elles disposent, selon la taille du logement, on observe des variations. On ne peut pas penser à un contexte de manière uniforme. Et d'ailleurs, vous devez sans doute le voir dans votre pratique au quotidien des terrains sur lesquels vous intervenez. Troisième résultat, j'en parlerai assez peu, on pourra peut-être, enfin je ne vais même pas en parler, mais on pourra y revenir dans les questions tout à l'heure. Le caractère transversal à l'espace urbain de la nette différenciation de l'accès aux espaces publics des enfants selon le sexe. Les filles tendant à subir davantage de restrictions, davantage de contrôles que les garçons. Il y a par exemple des études qui montrent que les filles passent moins de temps dans les espaces de jeu que les garçons au même âge, en autonomie, avec des craintes qui sont renforcées, alors notamment au moment de la puberté. Donc là, c'est une question un peu difficile, à quel moment on arrête de parler d'enfance pour parler d'adolescence. Je pense que là, aujourd'hui, on a plutôt fait le choix de parler d'enfants, je pense, on va plutôt rester sur le, en gros, jusqu'au primaire. Ce que j'aimerais vous transmettre, même si c'est peut-être un peu évident, vraiment la recherche montre qu'il y a des représentations genrées très très fortes de la vulnérabilité des enfants et que ça a des effets sur les usages de la ville réalisés par les enfants. Je pense notamment à un jeune collègue qui travaille sur les questions de mobilité en vélo et qui montre qu'il y a vraiment une différence dans l'accès au vélo entre garçons et filles qui est assez marquée. Alors, ces trois grands résultats, quand on les prend ensemble, alors évidemment je vais un peu vite, je simplifie un petit peu, mais donc poursuite du déclin de la présence des enfants, différenciation des pratiques urbaines selon les propriétés sociales des familles, contrôle plus fort des mobilités des filles, c'est des résultats qui nous suggèrent tous des formes de régulation de la présence des enfants dans les espaces publics, et notamment de régulation par les parents, donc moi c'est ce à quoi je me suis intéressé. Mais en fait, de manière assez paradoxale, il n'y a pas énormément de travaux de recherche qui ont été réalisés sur cette question, sur le rôle des parents dans la régulation de l'accès à la ville des enfants. Alors, il y a quelques exceptions, notamment une recherche qui a été réalisée en Angleterre à la fin des années 90 par une géographe, qui a notamment montré quelque chose de très intéressant, et je pense d'utile pour vous peut-être pour comprendre les dynamiques locales, qui est la très forte structuration des pratiques parentales par des normes sociale locale, c'est-à-dire qu'elle a mis en lumière l'existence de normes locales de parentalité. La façon dont un parent va autoriser son enfant à faire quelque chose, lui interdire, l'accompagner, lui recommander des choses, est très liée à la façon dont ces pratiques vont être jugées par d'autres parents. Il faut toujours penser les actions éducatives au regard du contexte dans lequel elles sont mises en œuvre. En sociologie, on parle d'un encastrement, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un rôle du contexte local des autres parents qui sont à la fois un regard et un repère pour comprendre les pratiques éducatives qui sont mises en œuvre. Les décisions des parents s'appuient sur l'anticipation de jugements moraux. Donc elles ne s'appuient pas uniquement sur ça, mais en partie sur le regard que les autres parents vont porter sur les actions éducatives, notamment dans le contexte que j'évoquais tout à l'heure, de responsabilisation des parents, de stigmatisation des parents qui vont laisser leurs enfants seuls dans les espaces. Moi, j'ai rencontré beaucoup de parents dans ma thèse qui, en particulier les pères, c'est assez genré, je ne vais pas vous parler de ça aujourd'hui, mais de pères qui regrettent de ne pas laisser leurs enfants faire des choses qu'ils considéreraient juste et normal de les laisser faire parce que d'autres parents les jugeraient et voilà, se permettraient de critiquer leur attitude. Ils ne souhaitent pas que les enfants à un âge défini puissent avoir accès à cette responsabilité ou à cette pratique. D'autres recherches ont montré le rôle central joué par l'école, j'en parlais tout à l'heure, dans la construction des réseaux de sociabilité parentaux. Je pense qu'on doit vraiment, pour comprendre un quartier, s'intéresser à ce qui se passe à l'école, parce que c'est en grande partie à l'école, autour de l'école, que se construisent les sociabilités locales et en particulier les sociabilités parentales. Et donc pour comprendre les normes sociales locales, pour comprendre le contexte normatif dans lequel les parents interviennent, il faut s'intéresser à l'école et aux réseaux de sociabilité qui se construisent autour de l'école. Ou qui ne se construisent pas pour ceux qui font le choix de scolariser leurs enfants en dehors du quartier. Ça, c'est une question assez, assez importante. Alors, dans les quartiers de la politique de la ville, les sociologues ont conduit un nombre très élevé de recherches sur les adolescents et les jeunes adultes, et notamment sur les dimensions spatiales de la vie des adolescents et des jeunes adultes. Mais, par contraste, les dimensions spatiales de la vie des enfants ont été assez peu étudiées. Donc là, j'ai le plaisir d'avoir un collègue qui est venu aujourd'hui, qui s'appelle Simon Kechichian, qui est juste là, qui pourra peut-être dire quelques mots tout à l'heure de son travail, qui lui s'intéresse aux dimensions spatiales de la vie des enfants dans ce type d'espace. Alors, il y a quelques travaux, hein, notamment en lien avec les questions de pratique musicale. Mais si on compare le nombre de recherches qui ont été consacrées aux enfants dans les quartiers de politique de la ville et aux adolescents, il y a vraiment un rapport peut-être de 1 à 100. Quoi. Enfin, c'est incomparable. Alors, c'est en partie lié évidemment à des préoccupations institutionnelles et à des financements de la recherche qui expliquent qu'il y ait beaucoup plus de recherches qui ont été conduites en vue peut-être de prévenir un certain type de comportement ou favoriser l'insertion scolaire et professionnelle, mais il y a vraiment très peu de recherches sur les enfants. Donc ce que je voulais aussi vous dire, c'est que finalement votre réflexion, c'est une réflexion qu'ont aussi les sociologues en ce moment. Il y a assez peu de travaux globalement sur les enfants et les espaces publics, il y en a probablement encore moins, en tout cas si on compare au nombre de recherches sur les adolescents dans les quartiers prioritaires. Alors, pour le dire vite, donc la focalisation de la recherche urbaine française sur les adolescents des quartiers prioritaires est en partie la conséquence de la construction en problème public de cette fraction de la jeunesse. Dans les discours publics, le substantif de jeune renvoie souvent aux garçons. En plus, c'est quand même plutôt les garçons qui sont étudiés que les filles, hein, souvent. Et de manière implicite, à des comportements violents, délinquants, regroupés sous l'expression de violence urbaine, qui associe au désordre une classe d'âge, un sexe, un contexte résidentiel, des quartiers prioritaires, et une origine étrangère. De manière synthétique, ces travaux, qui sont vraiment une somme assez importante, je pense qu'on peut vraiment tirer pas mal d'enseignements, mettent en lumière différentes dimensions de la socialisation résidentielle des adolescents, c'est-à-dire de comment le quartier a des effets sur leur manière d'être, leur manière d'agir, leur manière de penser le monde, et notamment leur rapport aux institutions, donc notamment l'école et la police. Et les manières d'habiter. Donc il y a notamment un travail classique en sociologie urbaine qui a été réalisé par David Lepoutre, qui s'appelle Cœur de banlieue, qui est une étude des sociabilités adolescentes à la Courneuve, qui montre, enfin, il décrit ce qu'il appelle une sociabilité d'espace public, qui se caractérise par des manières spécifiques de se parler, des manières spécifiques d'échanger des plaisanteries, de s'affronter physiquement. Cette sociabilité se caractérise par un fort niveau d'interconnaissance entre jeunes, qui a conduit plusieurs auteurs à avoir recours à la métaphore du village pour décrire la régulation collective des modes d'occupation des espaces publics. Je fais un détour par ces travaux sur les adolescents, parce que finalement, pour les enfants, ça nous intéresse aussi. S'il y a une régulation collective des occupations des espaces publics pour les ados, on peut faire l'hypothèse que probablement, en tout cas au moins dans l'esprit des parents, ça pourra avoir un effet aussi sur les enfants plus jeunes qui seront amenés à évoluer dans ces espaces. Et donc avec notamment aussi des travaux qui ont montré comment cette régulation informelle collective de l'espace local pouvait avoir des effets en termes de différenciation genrée des usages des espaces publics, avec des formes de contrôle de la mobilité des filles qui peuvent plus difficilement stationner dans l'espace public ou réaliser certaines activités que les garçons, sous peine d'avoir mauvaise réputation dans le cas inverse, en fait, si elles ne respectent pas ces normes locales de bienséance. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a une vraie disproportion entre le nombre de recherches qui ont été conduites sur les adolescents d'un côté, sur les enfants de l'autre. Il y a quand même quelques travaux donc, qui ont été réalisés sur les enfants, donc on en parlera peut-être tout à l'heure, et qui montrent quand même, mais je pense que vous en êtes convaincus, sinon vous ne seriez pas là ce matin, la plupart d'entre vous j'imagine, qu'il faut éviter l'écueil qui consiste à postuler l'uniformité de l'action éducative des parents. C'est-à-dire dans les quartiers prioritaires ou dans les quartiers de la politique de la ville, tous les parents mettraient en œuvre le même type d'action éducative, le même type d'encadrement, avec l'image. Donc ça, c'est vraiment assez important dans certains discours politiques, du parent démissionnaire qui se désintéresserait complètement des faits et gestes de son enfant au quotidien. Finalement, ce que montrent les quelques travaux qui se sont intéressés aux pratiques éducatives dans les quartiers prioritaires, c'est qu'on retrouve les mêmes principes de différenciation de l'action éducative au sein de ces quartiers que dans d'autres quartiers comme ceux que j'ai pu étudier, avec des parents, certains parents qui vont beaucoup plus contrôler à la fois les pratiques de mobilité et les sociabilités des enfants que d'autres parents, et des familles qui vont mettre en œuvre aussi des choix scolaires très ambitieux, où on veut contrôler les sociabilités, on veut contrôler le niveau de langage des enfants, donc scolariser l'enfant dans un établissement scolaire situé en dehors du quartier. En fait, on retrouve à peu près les mêmes principes de différenciation du rapport au quartier, du rapport à l'école, dans les quartiers populaires, dans les quartiers de politique de la ville, que dans d'autres espaces. Alors, on manque de travaux précis, il n'y en a pas énormément, comme je vous le disais, mais c'est quand même des observations qui sont assez récurrentes. Alors voilà, on pourra peut-être aller un peu plus loin tout à l'heure, mais c'était ça les éléments que je voulais vous livrer, notamment l'idée qu'en fait, il y a peu de travaux académiques qui portent sur la question des dimensions spatiales de la vie des enfants dans les quartiers de politique de la ville, et donc vous êtes vraiment dans une interrogation, je pense, qui est aussi celle des chercheurs aujourd'hui. Alors, je vais passer au cœur de mon intervention. Alors, je parle derrière, j'ai mis quelques extraits d'entretien pour, si vous vous ennuyez, vous pouvez comme ça regarder les parents que j'ai interrogés à Milan et à Paris. En fait, je voudrais vous dire je vais vous présenter quatre points, j'ai dû faire des choix, sinon je vous aurais parlé pendant des heures. Je voudrais vous dire quatre choses qui, j'espère, pourront peut-être vous être utiles. Même si, encore une fois, souvent, c'est des choses un peu évidentes que je mets en lumière. Alors, la première chose, le premier point, c'est que je voudrais qu'il soit clair pour vous que c'est trop simpliste de penser une opposition entre espace privé et espace public. Il n'y a pas le domicile et les espaces publics. Je pense que pour comprendre l'expérience des enfants et des parents, il faut penser l'espace public en termes graduels, avec des espaces perçus par les parents comme étant plus ou moins protégés, le long d'une gradation assez fine. Alors évidemment, ça dépend des contextes. Il faudrait que, sans doute pour chaque contexte, il faudrait dessiner des plans, des cartes mentales, voir comment ça fonctionne au niveau local. Mais voilà, c'est le premier point que j'aimerais développer, cette idée d'espace protégé qui se distingue le long d'une gradation fine dans l'esprit des parents. Donc pour commencer, finalement, pour les parents ont deux soucis principaux au moment où l'enfant commence à se déplacer sans eux dans la vie. Ces deux soucis principaux, c'est le souci d'éviter un accident de la circulation. Donc je pense qu'une spécificité probablement des quartiers dont on parle ce matin, c'est peut-être le risque d'accident avec une mobylette, c'est pas seulement des voitures, ça peut être des scooters, d'autres véhicules, mais l'idée de protéger son enfant du risque d'un accident avec un véhicule motorisé. Et le deuxième risque, que j'ai déjà un petit peu évoqué en filigrane en parlant du bilan de la recherche, c'est la mauvaise rencontre, la rencontre avec un inconnu malveillant qui pourrait faire du mal à l'enfant, l'enlever ou que sais-je. Donc ça, c'est des espèces de craintes qui sont dont les parents savent que la probabilité de leur occurrence n'est pas forcément très élevée, mais elles sont importantes, il faut en parler, parce que c'est ça qui va structurer les pratiques d'encadrement parental, notamment au début, en fait, au premier moment où les enfants commencent à se déplacer sans les parents. Cette place centrale, donc, des accidents de la circulation et de l'entrée en contact avec un inconnu malveillant, permet de comprendre de manière peut-être un peu contre-intuitive, alors je ne sais pas si ça marche de la même façon dans les quartiers de politique de la ville, mais moi dans les deux quartiers que j'ai étudiés c'est très marquant, le rôle que joue le domicile dans la découverte autonome de l'espace public. Moi c'est quelque chose à quoi je ne m'attendais absolument pas, et là, dans la plupart des cas, les familles ne laissent pas leurs enfants seuls dans la ville avant de les avoir laissés déjà seuls chez eux. C'est le premier espace en fait d'expérience de l'autonomie pour l'enfant, c'est-à-dire de passer, alors c'est souvent des périodes de plus en plus longues, au début quelques minutes, puis un peu plus, etc. Mais il y a vraiment c'est un des seuils de l'autonomisation, la capacité à être seul chez soi pour l'enfant, avant d'être seul dans le quartier. C'est pas vrai pour toutes les familles, mais c'est quelque chose d'assez récurrent. Alors, évidemment, au domicile, l'enfant est à l'abri des véhicules motorisés, à l'abri les inconnus. Alors, je fais une petite parenthèse, c'est un peu paradoxal parce qu'on sait que les risques domestiques pour les enfants, c'est vraiment très très élevé. Hein. C'est probablement, voilà, j'avais vu une étude de la MAIF, donc j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est vraiment important quoi, que le risque que l'enfant se blesse chez lui n'est pas du tout négligeable. Mais bon, dans les services de parents, le domicile et les travaux aussi qui portent sur les enfants montrent que c'est le cas aussi pour les enfants, est perçu comme un espace sécurisé et protégé. Alors, une fois que l'enfant est considéré apte à rester seul chez lui, la deuxième étape, c'est le moment où les parents confient à l'enfant les clés du domicile. Alors, c'est une étape importante parce qu'elle consacre la capacité de l'enfant, la capacité perçue par les parents de l'enfant à passer de manière autonome de l'espace privé à l'espace local et inversement. Ça revient très souvent dans les entretiens, le moment en fait où on donne à l'enfant la clé, il a la clé, j'ai la clé. Alors, dans certains entretiens, j'avais des enfants qui étaient là aussi. C'est vraiment un passage en fait dans l'autonomie. C'est une marque de confiance aussi parce que il y a quand même un enjeu potentiellement important pour les parents, parce que le domicile peut être mal fermé, les clés peuvent être perdues, ça peut entraîner des pertes économiques assez importantes. Et donc c'est vraiment la deuxième étape du processus d'exploration des espaces publics. Donc, une fois que l'enfant se déplace sans ses parents dans les espaces publics, donc un ensemble d'espaces comme des petites places, des rues piétonnes, des squares, des parcs, alors là ça va beaucoup dépendre des contextes, hein. C'est pas la même chose si vous êtes à la Défense ou si vous êtes dans le périurbain, enfin, là, c'est vraiment assez variable, mais il y a un ensemble d'espaces délimités souvent physiquement par des barrières ou alors protégés de la circulation automobile, qui vont être les premiers espaces dans lesquels les enfants sont autorisés à se déplacer ou à jouer de manière autonome. Donc parce que la circulation y est interdite ou très fortement régulée. Il y a toute une littérature, notamment aux Pays-Bas, sur la question de la régulation. Vous avez peut-être des réflexions autour de ça ici à Grenoble, je ne sais pas, sur les zones 30 ou les zones, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais il y a à la fois circulation de vélos, de voitures, zones de rencontre, voilà. Mais c'est des réflexions qui sont très importantes hein, parce que probablement elles favorisent, il y a des travaux d'ailleurs qui montrent la mobilité autonome des enfants parce que les parents perçoivent qu'elles sont plus sûres, du coup moins dangereuses pour eux. Donc ça c'est la première dimension, régulation ou interdiction de la circulation motorisée, et aussi et surtout, et c'est sur quoi j'aimerais insister un petit peu, parce que les parents perçoivent que des formes de régulation informelle de ce qui se passe dans ces espaces s'exercent. C'est-à-dire qu'ils ont le sentiment que dans ces espaces, il y a des gens, il y a toujours des gens, donc ils peuvent être des gens différents selon les endroits, ça peut être des jeunes, ça peut être d'autres parents, ça peut être des commerçants, enfin je vais en parler un petit peu, qui, de plus ou moins loin, observent, regardent, régulent ce qui se passe au sein de cet espace. Donc il y a une double dimension là, observe, contrôle ce que font les enfants, et observe, contrôle ce qu'on peut faire aux enfants. C'est-à-dire qu'il y a une présence qui donne un statut particulier aux parents, à ces espaces, par contre, pardon, parce que les parents les considèrent comme étant protégés par une forme de régulation des interactions. Et donc notamment, les autres parents, en particulier les autres parents d'enfants du même âge, sont perçus comme un appui dans la surveillance de ces enfants. Alors, j'entre pas dans les détails, on pourra peut-être y revenir tout à l'heure, et peut-être que vous, là, si vous pensez aux différents territoires sur lesquels vous intervenez, tout ça dépend beaucoup de la morphologie des territoires. Est-ce qu'il y a un parc, quelle taille il fait, voilà, est-ce qu'il y a une école pas loin, est-ce qu'il y a des commerces, il y a un rôle important de la morphologie d'une part, et d'autre part, du niveau d'interconnaissance perçu. C'est-à-dire, est-ce que les gens se connaissent, est-ce qu'il y a, notamment, je vous parlais du rôle de l'école tout à l'heure, est-ce qu'il y a des sociabilités. Souvent, par exemple, quand il y a un parc à côté d'une école, ça va beaucoup favoriser l'exercice de forme de contrôle social informel autour du parc qui jouxte cette école. Donc retenez cette idée, c'était mon premier point, pas penser une opposition privée-publique, mais plutôt penser une construction graduelle du passage de l'enfant du plus privé, du domicile, au plus public. Donc en gros, à Paris, c'est le métro, quoi. Le plus public, c'est le cœur de la ville. Donc à Grenoble, j'imagine peut-être le tram ou les avenues du centre-ville, où là, on ne connaît personne. En fait, il y a toute une gradation d'espace qui sont perçus par les parents. Donc voilà, là par exemple, sur le terrain milanais, il y avait un parc où c'était vraiment flagrant, parce que dans le parc, il y a une école, et donc à la fin de la classe, beaucoup de parents restent dans le parc, et en fait, il y a une forme de contrôle collectif de ce qui se passe dans le parc qui est très très fort. Alors, le deuxième point qui est lié à ce que je viens de vous dire, c'est qu'une fois qu'on est sorti de ces espaces perçus comme protégés, donc, ce que j'appelle des espaces protégés, c'est vraiment des espaces délimités, quoi, qu'on peut délimiter physiquement, et qui sont souvent très liés à l'aménagement de la ville. Les premières expériences de mobilité des enfants se déroulent le plus souvent dans un périmètre assez proche du logement. Donc les premières mobilités autonomes, c'est souvent des petites courses. Aller acheter du pain, aller acheter je sais pas quoi à la supérette, ou aller chez un voisin qui habite juste à côté. Ou des courts trajets vers une activité extrascolaire avec, et je pense que c'est particulièrement vrai dans les grands ensembles, souvent, pour les toutes premières mobilités, une forme de surveillance de loin, depuis la fenêtre ou depuis le balcon, par les parents, quoi, qui vont regarder un petit peu ce qui se passe. Et je pense que, enfin, j'en ai déjà entendu parler pas mal de fois dans différents contextes, que certains espaces publics, en fait, pensés par les aménageurs dans les années 60-70, en fait, permettent pas mal ça, avec des formes de regard depuis les balcons, les fenêtres, et qui participent, du coup, à cette construction d'une forme de confiance dans la surveillance de l'espace public. Parce que justement, on se dit que si moi je regarde, probablement d'autres parents regardent aussi ce qui se passe. Donc ce petit périmètre s'élargit progressivement avec la montée en âge de l'enfant. Et ce que j'aimerais vous dire, je trouve que c'est un point assez important, c'est le rôle central que jouent dans l'esprit des parents les commerçants. Donc là, vous avez une phrase qui est assez marquante, c'est le béaba de la survie à Paris. Si tu as un problème, tu rentres dans un commerce. Alors c'est peut-être lié à la densité très forte des terrains que j'étudiais, je ne sais pas dans quelle mesure c'est vrai ailleurs, mais moi j'étais vraiment frappé, c'est une des consignes de base des parents à Paris et à Milan. Si tu as un problème, tu rentres dans un commerce, c'est des refuges aux yeux des parents. Et donc, si on veut le dire d'un point de vue un peu plus sociologique, en fait les commerçants contribuent à la construction de la confiance qu'ont les parents dans la sécurisation de l'espace local pour leurs enfants. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on a un quartier avec pas mal de commerces et que, comme ça arrive dans pas mal d'endroits en France, le nombre de commerces diminue, probablement une conséquence qu'on peut attendre, c'est une diminution de la confiance dans la régulation de l'espace local. En particulier pour les enfants, pour le cas de parents d'enfants jeunes. Mais je pense aussi que si on pense aux personnes âgées, ça doit aussi être vrai. Je n'ai pas travaillé sur ces questions-là. Mais... Donc j'attire votre attention sur le rôle que jouent les commerces dans la sécurisation perçue d'un espace. Donc, comme je vous le disais, la sérénité plus ou moins marquée des parents s'appuie sur la confiance dans la mise en œuvre de formes de contrôle informel, à la fois par les commerçants et par d'autres utilisateurs des espaces publics, de ce que font les enfants dans les espaces publics. Et je trouve, j'ai choisi de... Ça vaut le coup, je vais peut-être vous le lire cet extrait, parce que je trouve qu'il est assez intéressant. En fait, c'est une femme parisienne... Voilà, elle a grandi dans un milieu très aisé, dans le 16e arrondissement. En gros, elle a une maison à Belleville qui doit valoir 1 200 000 euros ou un truc comme ça. Elle travaille pas, son mari est chef d'entreprise. Enfin, elle a pas le profil de beaucoup de jeunes qui sont dans les rues avoisinantes de sa maison. Et quand elle arrive dans le 19e arrondissement, elle avait un peu peur de ces jeunes, et notamment des conséquences que leur présence pouvait avoir éventuellement à terme sur la sécurité de ses enfants. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'elle... Alors, je ne sais pas ce qu'il faut faire, là. Elle explique qu'avec le temps, elle en est venue à considérer ces jeunes comme des ressources de protection pour ses enfants dans le quartier. Parce qu'en fait, ils sont tout le temps là. Et voilà, quand les enfants tombent, ils vont les aider à se relever. Et finalement, comme il y a une forme d'interconnaissance, certes superficielle, mais suffisante, pour qu'elle ait le sentiment que s'il arrivait quelque chose à ses enfants, ces jeunes interviendraient. Et donc à la fin, elle dit, oui, la rue déserte est beaucoup plus angoissante que ces types-là. Et je trouve que c'est intéressant. Alors c'est un cas, là c'est vraiment très clair, mais ça ressort pas mal de mes entretiens à Paris. C'est moins vrai à Milan, où le rapport aux étrangers, la menace perçue n'est pas la même sur les deux terrains. À Paris, c'est plutôt les jeunes qui stagnent dans l'espace public, et à Milan, c'est plutôt des hommes étrangers arrivés récemment qu'on construit en problème et en danger, donc c'est pas tout à fait la même configuration. Mais je trouve que c'est assez intéressant de voir que finalement, des personnes qui sont dans la rue, qui peuvent être perçues au premier abord comme étant un facteur de risque, peuvent être perçues comme un facteur de sécurisation. Par une mère qui n'a pas du tout le profil du quartier ou de ces jeunes-là. Et donc, moi, mes entretiens, de manière plus générale, là c'est un cas un peu limite, montre que ce qu'une urbaniste américaine assez connue qui s'appelle Jane Jacobs appelait les yeux de la rue, c'est-à-dire des formes de contrôle informel de ce qui se passe dans les espaces publics, en fait c'est encore très actif et c'est un des facteurs principaux de la confiance des parents, en fait. L'idée que des formes de régulation informelle de la mobilité des enfants vont s'exercer au niveau du quartier. Alors, évidemment, c'est très lié au degré d'interconnaissance locale, donc c'est par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure sur le rôle des contextes locaux. Voilà, probablement, on en reparlera sans doute en conclusion, puis peut-être dans les échanges, le rôle des mairies, les animations qui vont être mises en œuvre, les différents endroits où les gens peuvent se rencontrer, construire du lien social, ont un effet sur le degré d'interconnaissance locale perçu. Moi, à Paris, il se trouve que le quartier que j'étudiais, 19e, est un quartier assez bien doté en centre d'animation, en différents endroits où les parents se rencontrent, et ça avait un effet certainement sur la confiance des parents. Je termine sur ce point en vous disant que la confiance des parents, elle s'appuie aussi sur une forme de conviction, qui est qu'en fait les parents, souvent, se disent « si moi je vois un enfant en difficulté, j'interviens. Donc, si mon enfant est en difficulté, d'autres adultes interviendront. » Une forme de confiance finalement dans la tendance à l'intervention d'autres gens si les enfants ont des problèmes. Alors, tout ça ne veut pas dire que les parents n'ont pas des craintes, etc. Je ne suis pas en train de vous brosser un tableau complètement angélique et positif. Ils sont tiraillés en fait entre des formes d'envie d'avoir confiance et des craintes et des normes qui leur disent qu'il ne faut pas laisser les enfants tout seuls, en tout cas pas trop tôt, etc. Mais c'est pour vous essayer de vous décrire des mécanismes qui vont conduire à la production de la confiance qu'ont les parents dans la sécurisation de l'espace local. Alors, le troisième point dont je voulais vous... Ah oui, et donc, juste pour terminer, je trouve que il y a un sociologue américain qui propose de considérer les habitants d'un quartier comme des consommateurs et des producteurs des ressources disponibles dans l'espace local. Je trouve que c'est très intéressant pour les parents, c'est-à-dire qu'eux-mêmes vont contribuer à produire ce contrôle social local et font l'hypothèse, espèrent, qu'ils vont aussi en bénéficier. C'est-à-dire que d'autres gens, que ce soit des commerçants, des animateurs, des gens qui travaillent pour la collectivité, d'autres parents, vont eux-mêmes produire ce contrôle social à leur bénéfice et à celui de leurs enfants. Et donc, par rapport aux questions qui sont les vôtres, moi j'aurais plutôt envie de dire que si on voit plus d'enfants seuls dans les espaces publics, on peut avoir une hypothèse certes qui consiste à dire que les parents sont des missionnaires, s'occupent pas de leurs enfants, on peut aussi avoir une hypothèse qui consiste à dire qu'en fait les parents ont confiance. Confiance dans la sécurisation du quartier. Alors je sais pas si c'est le cas parce que je connais pas les terrains dont on parle, mais en tout cas c'est une hypothèse à creuser. Alors, dernier point avant de passer au point suivant, ce sentiment de protection associé à l'espace local, associé au quartier, associé aux espaces protégés dont je vous parlais tout à l'heure, diminue considérablement, voire disparaît, avec l'obscurité. En fait, il y a une très forte distinction entre le jour, la nuit, la lumière, le sombre, ce qui va expliquer aussi la forte variation des horaires d'usage des espaces publics selon les saisons, avec l'idée quand même que la nuit est associée plutôt aux marginaux, au vide, au danger, et globalement, alors je ne sais pas si c'est vrai dans les quartiers qui vous intéressent, mais pour les terrains que j'étudiais, moi c'était très très clair, la tombée de la nuit c'est vraiment un moment de frontière nette dans la confiance qu'on a dans les espaces publics. Alors troisième point, je pense que c'est bien important d'avoir en tête qu'il n'y a pas d'un côté la mobilité des enfants avec leurs parents, et d'un autre côté les enfants seuls dans la ville. Là aussi, il y a une gradation. Il y a différentes configurations, en fait. Moi, j'ai pu constater dans ma thèse l'importance que revêt pour les parents la possibilité de mettre en œuvre ce que j'ai appelé des mobilités à plusieurs. C'est-à-dire de, par exemple, autoriser son enfant à se rendre, je sais pas, au centre commercial, au cinéma ou à l'école, à 3 ou 4. Ça, c'est d'accord, mais pas tout seul. De la même façon, peut-être aller jouer au foot ou à un autre jeu sur la dalle devant l'immeuble, à 2, 3, 4, ou alors avec l'idée qu'on va y retrouver l'autre enfant. C'est pas complètement autonome, il y a d'autres enfants qui sont investis. Ou alors des fois il y a des acteurs plus âgés, donc des frères et sœurs plus âgés, des cousins-cousines, des voisins, qui vont accompagner l'enfant. Donc, et par exemple, en Italie, je me suis intéressé au souvenir d'enfance des parents. Je ne sais pas si vous savez que l'Italie a un taux de natalité assez faible aujourd'hui, aux alentours de 1,3, alors que c'était 3,5 enfants par femme dans les années 60. En fait, ça explique probablement aussi en partie le déclin des enfants, de la présence des enfants dans les espaces publics. En fait, il y a moins d'enfants. Mais donc, non seulement il y a moins d'enfants, donc ils sont moins nombreux dans les espaces publics, mais comme ils sont moins nombreux, on les laisse moins facilement sortir, jouer seuls, se rendre au parc, parce qu'ils vont y retrouver moins d'enfants. Et je pense que la question démographique, la densité du nombre d'enfants au mètre carré, si on veut, d'une certaine manière, permet de comprendre aussi la présence plus ou moins importante d'enfants sur un territoire donné. Parce que ça permet plus facilement la mise en œuvre de ces activités ou mobilités réalisées à plusieurs qui sont considérées comme beaucoup plus rassurantes par les parents. Alors voilà, j'ai pas énormément de temps, donc je vais pas trop m'attarder, mais dernier point sur cette question-là, ça explique la mise en œuvre par les parents de stratégies de mobilisation, d'accumulation de capital social pour sécuriser la mobilité des enfants. C'est-à-dire qu'on va essayer de repérer d'autres enfants qui font le même trajet pour aller à l'école, ou qui vont aller à la même activité, ou qui vont pouvoir aller jouer au même moment. En fait, il y a une forme. Le contrôle parental s'exerce de manière indirecte. C'est-à-dire que les parents ne sont pas avec l'enfant au moment où il est dans l'espace public, mais ont envisagé l'importance que l'enfant ne soit pas seul, et donc d'une manière ou d'une autre se sont débrouillés pour le faire accompagner par d'autres enfants ou des personnes un peu plus âgées. Alors, dernier point, qui est quand même aussi important, et sur lequel je dois insister, c'est l'idée que la socialisation des enfants aux espaces publics s'inscrit dans des réalités matérielles très contrastées, dans des logiques éducatives très différentes aussi, selon les familles. Alors, différentes dimensions entrent en jeu ici, donc la question d'abord du capital économique, c'est-à-dire est-ce que les parents peuvent payer un mode de garde, peuvent payer un babysitter, peuvent payer une activité, peuvent payer un cadre à l'enfant finalement pour qu'il ne soit pas seul dans les espaces publics. Donc ça, même si beaucoup de villes mettent en œuvre des services assez accessibles financièrement, enfin, ça compte quand même d'avoir ça en tête. Deuxième point très important, la question du logement. Alors, dans les grands ensembles, je ne sais pas dans quelle mesure c'est pertinent, mais moi sur le terrain que j'ai étudié, qui était très contrasté du point de vue des types de logements des familles, il y a un contraste qui est très très important entre les familles qui vont disposer d'un 100 mètres carrés pour 3 ou 4 et les familles qui vont être 7, 8 personnes dans un 3 pièces. Bien évidemment, les usages des espaces publics ne sont pas les mêmes. Les espaces publics ne constituent pas dans la même mesure une ressource pour les enfants et aussi pour leurs parents quand on a peu de place chez soi que quand on a beaucoup de place chez soi. Ça permet de comprendre aussi la différenciation des pratiques d'invitation. Moi, c'était vraiment quelque chose de très marqué sur mon terrain, notamment parisien. Un contraste fort entre les familles plus favorisées avec des logements plus grands qui ne comprennent pas bien pourquoi finalement ils invitent chez eux les enfants de familles populaires qui viennent des fois ou pas, quoi, souvent pas, qui par contre ne rendent pas l'invitation assez rarement. En fait, d'après les entretiens que j'ai pu faire, c'est très lié aux questions de densité d'occupation du logement, d'état parfois d'insalubrité du logement aussi, qui fait que le domicile n'a pas du tout le même rôle dans les sociabilités enfantines en milieu favorisé et en milieu défavorisé. Donc les sociologues de l'enfance ont parlé d'une culture de la chambre, l'émergence d'une culture de la chambre pour les enfants dans les années 90-2000. Je pense qu'en réalité, cette culture de la chambre, elle est très socialement située. Déjà, il faut avoir une chambre pour soi, ce qui n'est pas du tout le cas de tous les enfants. Et puis surtout, il faut avoir un domicile suffisamment grand et suffisamment peu densément occupé pour pouvoir réaliser des activités de sociabilité chez soi. Donc, je sais pas dans quelle mesure c'est pertinent pour les quartiers qui nous intéressent, mais quand même, toujours aussi avoir en tête que probablement les enfants qu'on voit le plus dehors sont ceux qui disposent du moins d'espace chez eux. Ça peut être parce que le logement est plus petit ou simplement parce qu'il y a plus de gens dans le logement. Ou parce qu'on réalise dans le logement d'autres choses que... Enfin, il y a peut-être d'autres activités, type professionnelles, je sais pas... Qui se réalise. Et le dernier point, et après je conclurai, et puis on reviendra peut-être sur certaines choses dans les échanges si vous voulez. La structuration du temps extrascolaire des enfants n'est pas du tout la même selon les familles. Il y a des familles dans lesquelles, en dehors de l'école, les enfants ont un temps finalement très peu occupé par autre chose, très, très peu mesuré, très peu structuré par un rythme extérieur. Il y a des familles, donc là j'ai mis un extrait, donc là c'est un prof des universités en physique à Paris, et il parle d'un agenda de ministre pour parler de sa fille. En fait, elle est tout le temps occupée. Quand elle n'est pas à l'école, elle fait du sport, de la poterie, des échecs, elle va chez telle copine, en week-end ils sont jamais là parce qu'ils ont une maison en Normandie ou je ne sais plus où. En fait, elle a un rapport au quartier qui est quasiment résiduel. En fait, pour elle, les espaces publics du quartier, c'est un déplacement. C'est aller au métro, c'est aller faire une course, c'est revenir, mais elle ne stationne pas dans l'espace public, elle n'utilise pas l'espace public du tout de la même façon que des enfants qui, finalement, entre l'école et le coucher, vont passer, quand il fait beau, trois quarts de leur temps dehors. Notamment, en lien notamment avec ce que je vous disais tout à l'heure sur les questions de densité, d'occupation du domicile, etc. Et finalement, alors à ça peut se surajouter le fait que la scolarité, donc dans le cas, c'était très net dans le cas du 19e arrondissement, dans les familles avec les niveaux de diplôme les plus élevés, les ambitions scolaires peut-être les plus élevées, très souvent une scolarisation en dehors de l'arrondissement, donc du temps de transport, et un rapport finalement au quartier de résidence et aux autres, aux pères enfantins du même âge, quasiment voilà, résiduel, quasiment nul, quoi. Voilà, donc je voulais parler un petit peu de ça, la question de la structuration de l'emploi du temps extrascolaire des enfants, à mon avis. Et je sais pas, ça doit aussi être très différent selon les contextes locaux, mais dans les échanges que j'ai pu avoir au téléphone avec Perrine et ses collègues avant de venir ici, je pense que la question de l'aménagement des temps scolaires, la réforme des temps scolaires, a peut-être pu avoir un impact aussi sur les usages des espaces publics, alors de manière peut-être différente selon les contextes, mais je pense que c'est quelque chose dont on pourrait peut-être parler ensuite pendant les échanges. Je vais terminer là, et puis si vous voulez, je pourrais développer des points ensuite. Si je repars de la question qui m'avait été posée quand j'ai commencé à échanger avec vous, qui était comment expliquer la présence de plus en plus nombreuse d'enfants autonomes sur l'espace public dans certains secteurs prioritaires de la politique de la ville. En fait, moi je commencerai par poser deux questions à mon tour. Donc la première question, c'est ces enfants sont-ils vraiment seuls? Je fais l'hypothèse que non. J'en sais rien, mais je pense qu'ils sont plutôt à plusieurs. Donc il faudrait voir, hein, mais moi ça me paraîtrait un peu bizarre qu'il y ait un enfant qui arrive tout seul, que ça soit à chaque fois un enfant seul. Je pense qu'il y a des dynamiques collectives qu'il s'agit de comprendre. Moi j'ai pas de vue sur ces territoires, mais posez-vous cette question-là, c'est des enfants. Donc essayez peut-être de comprendre où ils se sont connus, est-ce qu'ils sont frères et sœurs, est-ce qu'ils sont voisins, est-ce qu'ils sont à l'école ensemble, est-ce qu'ils ont des activités extrascolaires ensemble. Quelle est la dynamique en fait qui va faire qu'ils vont venir ensemble sur les espaces publics. Et ma deuxième question, c'est est-ce qu'on parle vraiment d'espace public au sens d'espace rempli d'inconnus, ou est-ce qu'on parle d'espace protégés, tels que je les évoquais tout à l'heure. Est-ce que ce n'est pas des espaces qui sont perçus par les parents comme étant des espaces physiquement délimités, protégés, ou en moins en partie, de la circulation de véhicules motorisés, et dans lesquels s'exerceraient des formes de régulation collective et informelle de la présence des enfants? Et je fais l'hypothèse là aussi que c'est ça, en fait, dont on parle. Ce n'est pas des espaces publics au sens grande ville, métro. C'est des espaces dans lesquels on a le sentiment que finalement... l'enfant est dans un espace intermédiaire entre chez soi et l'espace public. D'ailleurs, en tant qu'acteur public, vous jouez certainement un rôle dans le sentiment de protection que les parents associent à cet espace. Ils doivent se dire, tiens, s'il y a des gens de la mairie, il y a des animateurs, en fait, ils vont jeter un œil à mon enfant. Ils vont, s'il y a un problème, intervenir. Ils jouent un rôle. Donc vous-même, vous jouez un rôle dans la régulation perçue par les parents de ces espaces. J'insiste un peu, hein, mais je pense que ce caractère spécifique de l'espace local pour les parents est très important pour comprendre ce que vous qualifiez de recrudescence d'enfants dans les espaces publics. Et c'est très lié à la question de la construction locale, de l'interconnaissance. Comment se produit sur les territoires qui vous intéressent la familiarité plus ou moins superficielle entre les habitants, entre les parents? Je pense que c'est ça les dynamiques qu'il faut comprendre pour voir... pour pouvoir agir et intervenir sur ces territoires. Bon, et voilà, et j'en resterai là, mais par ailleurs, je pense, ça serait un peu ma troisième question, qui sont ces enfants? Est-ce que vous avez une idée de peut-être du profil des familles? Est-ce que vous avez une idée du type de profession des parents, de leur niveau de ressources économiques, du temps dont les parents disposent pour les accompagner? Est-ce que c'est tous les enfants de ces quartiers ou est-ce que c'est un profil spécifique d'enfants? Gardez en tête l'idée qu'il y a une forte différenciation, y compris dans les quartiers politiques de la ville, des logiques éducatives, des logiques de contrôle et d'accompagnement de la mobilité des enfants dans les espaces publics. Voilà, à la fois j'ai l'impression de vous avoir dit beaucoup de choses et d'avoir été un peu vite, mais j'espère que ça vous a donné quelques pistes et puis je suis à disposition pour discuter. Puis peut-être que Simon aussi pourra dire quelque chose sur ses propres recherches à Lyon, c'est à Vénissieux, c'est ça. Donc je pense que là, ça sera peut-être plus en écho avec vos territoires. Voilà, merci beaucoup.
Merci Clément. Du coup, la parole à la salle. Mon idée, c'est d'avoir un petit temps
de... Je voulais dire un petit truc aussi. Excusez-moi, je voulais faire... J'ai mis pour ceux que ça intéresserait des références, mais...
Je vous en imprimez quelques-uns là-bas.
C'est pas ça dont je voulais vous parler. Ce dont je voudrais vous parler, c'est la revue qui est en haut, la Métropolitique. En fait, je fais partie de la rédaction de cette revue. Et je pense qu'elle peut vous intéresser parce que l'idée de cette revue, c'est d'être un espace d'échange à la fois entre universitaires de différentes disciplines, donc géographie, économie, sociologie, histoire, philosophie, mais surtout entre universitaires et praticiens, on va dire au sens large, donc urbanistes, architectes. On a beaucoup de lecteurs qui font partie de la préfectorale, en fait, de manière un peu étonnante pour nous, collectivités locales. Et l'idée, c'est de faire des articles pas trop longs, 3-4 pages, qui puisse permettre un échange entre les mondes professionnels et la recherche. Et vraiment, je ne dis pas ça parce que j'en fais partie, mais je pense que ça peut vous servir sur certains points de regarder ce qu'on a fait depuis une dizaine d'années. Il doit y avoir 1000 ou 1200 articles. Il y a notamment un dossier sur les enfants dans la ville, mais il y a aussi plein d'autres choses, donc c'est complètement gratuit. Je vous invite à regarder.